Mouria Bentouami est philosophe et enseignante à Toulouse.
À Toulouse, oui. Bonjour à tous. Alors, pour, on m'a demandé donc de réfléchir à, la journée d'aujourd'hui. Donc, j'ai évidemment raccordé avec mes propres travaux, mais je travaille donc beaucoup sur les productions des identités, sur la production de la race. Mais c'était beaucoup plus par rapport en fait à ce que j'ai fait sur la désobéissance civile. Je me suis dit que il y avait quand même la question que fait-on de l'étranger aujourd'hui. Pose aussi la question évidemment des engagements politiques, des politiques directement comme première chose, et ensuite des engagements politiques, ce qui est au centre de la désobéissance civile. Et j'ai voulu m'interroger notamment sur ce que j'ai fait dans un travail récent sur la construction du délit de solidarité. Tel qu'il a lieu en France, en lui redonnant une densité historique à partir d'une expérience historique qui était donc celle de ce qu'on a appelé de la loi contre les esclaves fugitifs aux États-Unis, et pour laquelle Thoreau, donc le fameux écrivain, auteur, philosophe de la désobéissance civile, donc, a écrit plusieurs essais à ce propos, sur cette loi. Et donc, c'est, si vous voulez, j'ai voulu avant tout du coup, parler de la désobéissance civile pour moi à partir de ce qu'a été son engagement anti-esclavagiste, donc son engagement abolitionniste, pour changer complètement la perspective sur cette question, et puis également pour voir comment aujourd'hui on pouvait penser, notamment, alors ça c'est l'un des points qui nous intéresse aujourd'hui, penser l'étranger autrement que sous la figure et autrement qu'à partir du paradigme de l'altérité et autrement qu'à partir de l'humanisme également, de la solidarité au sens humaniste du terme. Donc de voir justement comment on peut jeter un soupçon sur ces catégories-là, quelle autre, l'altérité, et autre soupçon sur la notion même d'humanisme. Et donc pour ce faire, donc je vais vous rappeler un peu peut-être des éléments de réflexion à propos donc, de cet engagement que fut celui de Thoreau, donc, qui venait d'un État du Nord, qui était un État dont non-esclavagiste, qui était le Massachusetts. Et quand cette loi inique, donc, qui est la loi des esclaves fugitives, a été votée en 1850, il écrit plusieurs textes, de conférences publiques, et notamment une qui s'appelle, de manière ironique, « Esclavage au Massachusetts ». Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est de l'esclavage, d'une certaine façon, au Massachusetts ? Ben, tout simplement parce que cette loi demande que tous les esclaves qui s'échappent, donc qui fuient des plantations, qui se retrouvent dans le Nord, selon un accord fédéral, eh bien, les États du Nord sont obligés de ramener les forces publiques et citoyennes, en l'occurrence, sont obligés de ramener les esclaves à leurs propriétaires. Donc dans le Sud, alors même que ces États ne sont pas des États esclavagistes. Et la raison pour laquelle Thoreau prend position à ce moment-là, c'est que, il y en a plusieurs, mais la première, justement, consiste à se dire pourquoi est-ce que on doit désobéir à cette loi, et notamment pourquoi est-ce que, en tant qu'abolitionniste, on ne peut pas non plus avoir une approche philanthropique de la solidarité. Il ne s'agit pas de sauver les Noirs, de sauver quelque chose, quelqu'un qui nous serait profondément étranger. Et ce qu'il dit à ce propos, c'est qu'il s'oppose à deux fronts, enfin les deux critiques qu'il fait. Il s'oppose évidemment donc à cette loi et à la Cour qui l'a ratifiée, et les forces publiques, etc. Bon, ça c'est déconvenu. Mais il s'oppose aussi au sein des cercles philanthropiques abolitionnistes, justement à cette notion de philanthropie qui régit une grande partie des discours abolitionnistes. C'est-à-dire qu'il critique de manière très sévère, très dure, cette approche-là qui consiste à dire qu'il faut sauver nos Noirs, il faut sauver son pauvre, et donc il critique le sens de la propriété qu'il y a à constituer l'autre comme étant d'une certaine manière sien. Et le déroulement un peu de cette argumentation, pour aller très vite, parce que moi je suis un peu au pas de course, mais pour aller très vite, c'est qu'on se sent d'une certaine manière, dit-il, une forme de supériorité morale, et comme si finalement nous n'avons rien à voir dans notre identité du Nord avec ce qui se passe dans le Sud. comme si notre économie même n'était pas supportée par cette économie du Sud. Dans l'imaginaire même de la nation américaine, il y aurait cette division, ce partage clairement délimité, où finalement ce que ferait l'esclave quand il passerait donc d'un lieu à un autre, du Sud au Nord, eh bien il irait de l'esclavage à la liberté. Eh bien, il récuse évidemment cette topographie de l'émancipation en disant que précisément, et il prend un cas très particulier, qui est celui de l'esclave fugitif Anthony Burns, qui est ramené par toute la population, donc dans le nord, au Massachusetts, qui est ramené par des habitants aux forces publiques pour qu'il soit donc ramené à son propriétaire dans le sud. Et ce que dit Thoreau à ce propos, c'est qu'il y a une grande liesse populaire parce que ça correspond à la fête de l'indépendance américaine. Et il dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir, se sentir révolutionnaire, c'est-à-dire héritier de la révolution américaine, et en même temps ramener cet esclave à son propriétaire, et donc se sentir une forme de supériorité révolutionnaire. Et ce qu'il dit, c'est qu'on n'hérite pas on ne naît pas révolutionnaire de cette manière, on n'hérite pas du sens même de la révolution, et ce qu'il convient de faire, donc c'est bien sûr maintenant tout ce qu'on entend en termes d'engagement, c'est de redemander à chaque fois ce que veut dire le terme d'émancipation, plutôt que de le prendre simplement comme quelque chose qui nous serait donné du fait même qu'on serait en France, si vous voulez, on serait la patrie des droits de l'homme, on serait nécessairement héritier de cette histoire. Donc il n'y a pas d'héritage en termes d'engagement d'une certaine façon. L'autre aspect, donc, était celui de la philanthropie, qui est très critiquée, c'est que il ne reproche pas donc le manque d'aide, évidemment, des cercles philanthropiques, hein, dont l'un des plus fameux, qui est celui du Liberator de William Garrison, etc. Mais au contraire, quelque chose qui relèverait de, dit-il, de la distance. C'est-à-dire qu'il y aurait, dans la manière dont j'aide les esclaves, dit-il, une certaine distance, parce que voilà, ils seraient plus démunis, ils n'auraient pas la capacité, etc. Ce qui pousse, alors on pourrait se dire, bon, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, c'est que ça prend part, si vous voulez, dans un débat qui est encore aujourd'hui le cas, c'est-à-dire, faut-il, pour justement aider les esclaves fugitifs, eh bien, ne pas être violent. C'est toute la question, c'est-à-dire, faut-il accepter que des armes soient prises quelque chose de l'ordre de la désobéissance violente. Et évidemment, tous les cercles philanthropiques de Boston, etc., refusent l'idée de violence. Et lui se constitue, du coup, se met du côté, en fait, de ce qu'on a appelé les abolitionnistes noirs, Frederick Douglass, John R. Truth, etc., avec qui, véritablement, il a eu des rapports, et considère qu'il faut prendre le point de vue, en l'occurrence, là, de l'opprimé, des premiers concernés, et évidemment, appuyer le fait que les esclaves se défendent par les armes. Puisque l'une, justement, encore une fois, dit que l'une des raisons pour lesquelles la philanthropie marche si bien dans le discours abolitionniste, c'est qu'on rend les personnes complètement indéfendables. C'est-à-dire la manière dont on va défendre une personne, c'est de la rendre elle-même indéfendable. Et donc, pour lui, donc, il s'agit de leur rendre les conditions même de leur défense. C'est pourquoi donc, il écrit des textes en faveur d'un célèbre Robin Quaker, d'un célèbre, pas abolitionniste, mais un pro-abolitionniste, etc., qui a fait des raids violents, pour le dire comme ça, pour armer les esclaves. Donc bref, c'était pour me mettre dans ce contexte-là un peu, j'allais dire, historique, pour comprendre donc comment est-ce qu'on peut repenser, finalement, hors du concept même, hors du concept de l'altérité pure, et de montrer aussi que la manière dont, du coup, comment dois-je le penser alors, selon l'analyse critique, comment est-ce que je dois penser cette aide, d'une certaine façon. Autrement, donc, que par des rapports simplement d'étrangeté pure, d'altérité pure, qui ferait que donc j'aurais la bonne conscience d'avoir aidé quelqu'un où les rapports de hiérarchie seraient bien maintenus. Eh bien, dit-il, il faut se dire, justement, c'est un peu une approche un peu matérialiste, on dirait aujourd'hui, hein, mais qui n'était pas matérialiste en ce sens-là, mais il disait, il faut toujours que je me demande à quel prix je suis libre dans le Nord. C'est-à-dire à quel prix est-ce que je peux jouir de ma liberté de circulation dans le Nord. Et donc il a une formule, il dit, je dois toujours me demander sur quel dos je suis juché. Et donc, en l'occurrence, il s'agit de savoir, effectivement, encore une fois, depuis moi, de manière aujourd'hui, on dirait très matérialiste, la chaîne qui fait qu'il ne peut y avoir, finalement, d'hommes libres, il ne peut y avoir de liberté pour certains que si, par ailleurs, il y a une forme d'asservissement, et en l'occurrence, de manière très économique, hein, dans le cadre de production qui était celui-là. Donc voilà pour, j'allais dire, pour le lien un peu avec la désobéissance civile. Alors, qu'est-ce que pensait donc l'étranger en dehors du paradigme de l'altérité, et pourquoi est-ce qu'il faudrait le penser hors de ce paradigme-là? Alors, l'une, parce que qu'est-ce que c'est qu'un étranger déjà? Bien, c'est un corps étranger, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est un corps qui se déplace. D'accord, qui se déplace, qui est déplacé, qui est extrait, pour revenir vraiment à la base, je veux dire, qui est extrait ou qui s'extrait de son contexte culturel initial pour aller dans un autre contexte. Et qu'est-ce qui se passe dans ce déplacement? C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une autre perspective que simplement celle d'un point de chute et d'un point, vous voyez, un point de départ qui serait celui de l'horreur absolue, hein, souvent, et puis celui d'arrivée qui serait donc celui de l'accueil et de l'émancipation, de la liberté, des droits acquis, etc. Donc plutôt que d'avoir cette topographie un peu du déplacement et qui attribue des valeurs morales très polarisées comme ça au lieu de départ et au lieu d'arrivée, se demander ce qui se passe dans ce déplacement. Et ce qui est perdu, ce qui est gagné, ce qui est... et donc de comprendre justement donc l'étranger non plus à partir donc cette figure très rigide qu'est celui de alors pour nous de l'immigré ou de l'émigré pour les pays de départ, mais véritablement comme qu'est-ce qui voyage dans ce ces déplacements. Et de repenser ces déplacements à partir de ce que, pour les études postcoloniales, on repensait, à savoir la notion de diaspora. Donc, les diasporas qui comprises donc non plus à partir de la figure d'une centralité, c'est-à-dire que ce serait finalement, il y aurait une conscience unitaire qui se serait constituée à partir de la mémoire d'un foyer originaire, du lieu d'origine, mais de penser plutôt une dispersion sans foyer originaire ou sans nécessairement une origine qui serait... qu'on pourrait retrouver, ou donc un peu anti-essentialiste, comme le disait tout à l'heure mon collègue. Et ça permet, cette manière de voir, donc, qui est celle de notamment, pas que, hein, de Gilroy, de plein de personnes dans les théories post-coloniales, ça permet de penser de manière beaucoup plus dynamique et créative aussi, et donc de sortir un peu du misérabilisme de l'étranger, même si c'est-à-dire qu'à partir même des expériences de souffrance, hein, qui sont, si on parle là, on parle évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est pas simplement l'étranger qui peut, effectivement, avec son passeport, on le sait tous, hein, voyager, voilà, s'exiler au Brésil, aller du nord au sud, comme il le souhaite. Hein. On parle ici des déplacements qui sont d'une certaine façon contraints, forcés, mais qui sont eux-mêmes créateurs de nouvelles constructions identitaires, qui ne sont plus réductibles donc à un foyer unitaire ou à une certaine essence. Et juste pour le dire, pour dire rapidement, c'est que je pense qu'il faut aussi avoir une approche, alors pour moi sur philo, donc je dis phénoménologique, mais dire comment les corps se déplacent permet de dire beaucoup justement de la constitution de l'étranger, comme d'un certain corps qui se déplace comme étant étranger. Par exemple, selon la durée même du trajet, par exemple, dit beaucoup de qui voyage. Si vous mettez un an pour arriver à destination, c'est certainement que vous n'avez pas les papiers à temps. Ça suppose tous les tracas administratifs, ça suppose des conflits territoriaux, enfin, ça suppose énormément de choses. Donc le nombre de pays traversés même, la manière même dont vous voyagez, si vous prenez un avion, si vous prenez un bateau, si vous allez en voiture, si vous faites à pied, si vous passez par les montagnes, etc., donc dit beaucoup aussi de ce qui sera ensuite catégorisé comme étranger. C'est-à-dire que celui qui arrive, encore une fois, hein, avec son passeport, etc., n'est pas immédiatement considéré comme étranger, avec toute la stigmatisation qu'il y a derrière la figure de l'étranger. Donc, mais plutôt comme quelqu'un venant d'une autre culture, d'un autre pays, mais pas comme l'étranger avec toute la densité, j'allais dire presque morale, qu'il y a derrière cette figure. Et puis, autre chose peut-être, c'est comment aussi, je finis là-dessus, comment est-ce qu'on devient étranger, donc, d'une certaine façon, donc de manière un peu contrainte, en étudiant les déplacements, qui se déplacent, les femmes qui peuvent mettre plus de temps à se déplacer, qui sont accompagnées, etc. Bon. Mais il y a aussi, évidemment, le côté créatif du devenir étranger. C'est-à-dire, cette fois-ci, que je prends en un sens, désolé encore de parler de philosophie, mais en un sens un peu deleuzien, c'est un devenir minoritaire. Comment est-ce que moi, qui ne me déplace pas, par exemple, ou moi qui ne suis pas contraint à un déplacement forcé, est-ce que je peux saisir quelque chose de cette expérience-là de l'étranger ? De l'étranger, au sens paradigmatique qu'on a donné, ce terme-là, c'est-à-dire vraiment les expériences les plus de souffrance, voilà, les plus grandes. Donc comment je peux connaître ou vivre ou accompagner quelque chose que je ne suis pas pour autant, voyez ? Et donc dans ce devenir minoritaire, donc j'entends cette manière donc, que Deleuze disait, comment, Claude Kafka le disait, comment se faire immigrer dans sa propre langue. C'est-à-dire comment est-ce que je deviens étranger dans ma propre langue, dans mon propre pays, etc. En adoptant le point de vue d'eux. Et toute cette... donc ça suppose des politiques, donc vous voyez, contre-hégémoniques, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour adopter le point de vue de celui que je ne suis pas, donc toutes les politiques, ça suppose des politiques de solidarité, qui ne sont plus du coup des politiques, vous voyez, qui viennent sur une manière d'en haut, d'aller aider quelqu'un, mais d'être moi-même, je questionne moi-même mon rapport à l'autre comme me constituant moi-même. Et c'est ça qui est, enfin, c'est un peu abstrait ce que je me dis comme ça, mais c'est fondamentalement l'idée. Mais, donc du coup, ça suppose évidemment de sortir encore une fois du paradigme de l'humanitaire, d'une certaine manière.